L'invité régional avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
Vita Evna, bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez d'enfants en difficulté. Vous habitez à Saint-Georges-de-Montaigu, au nord de la Vendée. Et vous faites partie des 150 citoyens et citoyennes ayant participé à la Convention pour le climat entre octobre 2019 et juillet 2020. Un projet de loi issu de vos travaux nommé Climat et résilience sera débattu à l'Assemblée le 29 mars prochain. L'objectif de cette grande consultation citoyenne n'était autre que de diminuer d'au moins 40% par rapport à 1990 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Vita Evna, comment jugez-vous le résultat final de cette convention pour le climat ?
Je juge ce résultat peu satisfaisant parce que même les mesures qui ont été prises, elles ont été appauvries et l'objectif, il ne sera pas atteint. C'est l'ensemble de mesures qui devraient apporter le résultat attendu. Et quand vous prenez, par exemple, un bâtiment et vous enlevez des étages, des sections, des briques, des escaliers, une partie du grenier, votre bâtiment, il va s'effondrer. C'est exactement la même situation avec la loi de climat. Il y a des pièces qui ont été retirées, il y a d'autres pièces qui ont été oubliées, il y a d'autres pièces qui ont été modifiées. Et pour moi, c'est un bâtiment qui ne va pas tenir.
Pour rappel, 149 propositions de loi ont été soumises à Emmanuel Macron. Trois d'entre elles ont été supprimées, comme les 110 km sur l'autoroute. Et la majorité a été modifiée avec des objectifs souvent revus à la baisse. Les 150 membres dont vous faites partie ont noté sévèrement les propositions finalement prises en compte par le gouvernement, avec un taux de satisfaction bien en dessous de la moyenne. Pour vous, c'est un constat d'échec cette convention pour le climat ?
Non, ce n'est pas un constat d'échec, absolument pas du tout. C'est un pas vers une démocratie. Il y a plusieurs formes de démocratie et il faut que les citoyens participent davantage dans des prises de décisions importantes. De ce côté-là, non, le travail de la convention, ce n'est pas un échec. Au contraire, nous avons montré, le travail de la convention a montré que les citoyens lambda sont capables de produire, de faire des conclusions digne de ce niveau. J'ai vérifié après notre travail les conclusions, les propositions que nous avons faites avec des propositions des ONG et des professionnels, et j'ai vu que l'écart, il était vraiment minime. Ça veut dire que notre travail, en fait, il était au niveau. Moi, parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque part vraiment une deuxième planète et tout le monde est au courant qu'il y a le plan B, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a pas d'urgence, tout se passe très bien. La situation, elle est vraiment alarmante, même pas trop. Et le gouvernement, il a pris ce positionnement. C'est pas très grave, c'est pas alarmant, c'est juste un tout petit peu inquiétant, d'où cet écart de deux approches.
Il y a une proposition de loi qui, je crois, vous tenait à cœur, sur laquelle vous n'avez pas forcément travaillé, on y reviendra après, mais qui vous tenait à cœur, c'est concernant l'écocide. Pas plus que ça.
Pour moi, c'est pas l'histoire d'écocide en fait qui va bouger les choses. Pour moi, c'est la protection de la biodiversité qui est la clé de tout cet édifice. Parce que puni ou pas puni, ils vont continuer.
Là où je voulais en venir avec l'écocide, c'est qu'à la base, les atteintes graves à l'environnement devaient être considérées aux yeux de la justice comme un crime. Emmanuel Macron a voulu qualifier cela de délit. Et à l'image de cet abaissement, atteint-on les limites de la démocratie participative quand on connaît les enjeux économiques et politiques derrière certaines de ces propositions?
C'est-à-dire que ce n'est pas l'histoire de limite de la démocratie participative. La démocratie, elle a délibéré. Un crime, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, c'est la vision du président qui est différente. C'est à lui qu'il faut poser la question pourquoi sa vision elle est différente, pourquoi il trouve que leurs arguments sont pertinents et les nôtres sont moins pertinents.
Maintenant, je vais venir un peu plus sur votre travail. 150 citoyens tirés au sort se sont réunis durant 6 week-ends de travail à Paris.
C'était 7 week-ends. Et la huitième session, elle était en février. Elle était en visio, mais il y avait pas mal de travail en visio, en fait. On avait des week-ends de travail, on avait des webinaires souvent entre les sessions de travail. Et on a terminé, en fait, en février avec la réponse à la réponse, avec cette notation qui a été mal perçue par beaucoup de gens. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'était une notation objective pour moi.
Comment était d'ailleurs l'ambiance de travail entre tous les citoyens? Et j'imagine que le rythme était soutenu, assez intense tout de même.
Le rythme, il était soutenu et très intense. Nous étions, et nous sommes toujours, 150 qui étaient divisés en 5 groupes de travail. Moi, je fais partie du groupe Produire et Travailler. Et nous avons travaillé en mini-groupe, en binôme, trinôme. Une personne finissait son travail, elle se rejoignait à notre groupe. On était tout le temps mobile, ce qui nous a permis de maîtriser pas mal de questions. Et ça nous a rendu en quelque sorte polyvalents quand il fallait défendre nos propositions. Parce que, en fait, nous avons travaillé nos mesures à l'intérieur du groupe. Après, nous les avons présentés aux autres membres de la Convention. Et après, nous avons eu droit à amender les propositions pour aller dans ce sens, pouvoir apporter certaines modifications, certaines améliorations. Et après, nous avons voté. Et après le vote, il y avait la réponse du président. Et la session 8, c'était la réponse à la réponse, en sachant qu'à partir du mois de septembre, nous avons commencé un travail très intense avec des ministères différents pour essayer d'expliquer ce que nous voulions dire dans nos propositions. Et le résultat, vous le voyez.
Vous êtes notamment, comme vous l'avez dit, penché sur la thématique produire et travailler, attaché à la question du recyclage.
Oui.
Vous étiez épaulé, vous l'avez dit aussi, par des groupes d'appui, des intervenants qualifiés oui, sur les questions abordées. Qu'avez-vous étudié concrètement et quelle pierre avez-vous apporté à l'édifice de la Convention climat?
Donc moi, j'ai fait quelques propositions. J'ai proposé de rendre les plastiques recyclables, c'est-à-dire que à l'heure d'aujourd'hui, il y a 14 familles de plastique et cette quantité de familles de plastique, elle ralentit le recyclage. Pas que ça, le mélange de plastique, de résines différentes, ça contrarie aussi le recyclage. Pour que le recyclage soit efficace, il y a des règles à respecter, les règles strictes. Et nous sommes vraiment à un croisement quand il faut choisir entre côté esthétique et côté pratique de la chose. Et côté pratique de la chose, il dicte que si vous voulez produire des objets plastiques, il faudra les produire en une seule matière pour que ces objets soient recyclables. La couleur, il faudra peut-être dire au revoir. Et la question clé, c'est la production, c'est la conception éco-responsable. Puis nous avons proposé d'être responsable de tous les déchets que nous produisons, c'est-à-dire d'ici 5 ans, améliorer notre système de tri, de recyclage, etc. Et arrêter d'exporter nos déchets dans les pays du tiers-monde. Parce que c'est en fait, en quelque part, malhonnête de notre part de consommer chez nous et d'envoyer nos emballages ailleurs. Donc, c'était ça notre idée.
Dernière question. Quel souvenir allez-vous garder de cette expérience citoyenne unique?
Je veux vous le dire, il y a un souvenir que j'oublierai jamais. Il y avait une situation particulière autour de notre proposition sur la protection de la biodiversité. Et suite aux certaines propositions, on nous a accordé un temps minime pour la terminer, pour qu'elle soit acceptée. Il y avait un groupe de mes camarades, et je faisais partie aussi de ce groupe. Nous avons travaillé dans ce temps qui était limité. Nous avions de mémoire genre 3 jours et 3 nuits. On a travaillé 3 jours et 3 nuits et je m'en souviens toujours de ces gens. Je connais leur nom, je vois encore devant mes yeux leur visage. Ils ont travaillé vraiment pendant 3 nuits. Ils se reposaient dans la journée pour prendre le relais dans la nuit et les autres, ils prenaient le relais dans la journée. Et entre-temps, on travaillait, on avait tous et toutes la vie de famille. Donc, on s'intercalait et on n'a pas lâché, moi, je suis vraiment fière de ce travail et ça m'émeut énormément de penser que nous avons réalisé ce travail et nous avons réalisé ce travail parce qu'on était vraiment une équipe et on n'a pas lâché.
On ressent en tout cas votre fierté et votre émotion à travers le micro. Merci Vita Evena.
Merci à vous Maxence.
Et à une prochaine fois.
Merci.
Merci, au revoir.
Merci à bientôt, au revoir.